Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La conspiration.
Sur notre générique par Nico à la technique. Bienvenue à la conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène sur Radio Campus 92.1 FM. Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite émission pour épingler la scène bruxelloise, la scène de spectacle, théâtre, danse, performance, cirque. Et ce soir, nous irons du côté d'une comédie grunge. Ça ne s'invente pas, ça s'appelle Bleu Bleu et ça se passe au théâtre Océan Nord par Stéphane Arcas. Nous irons parler de vieillesse, d'amour et du temps qui passe avec le jeu des cigognes dans la petite salle sympathique des voûtes du public, hein, signé Philippe Blasban. Nous irons faire un tour, je ne sais pas si cérébral Nicolas l'a vu pour nous, la contribution à la théorie générale au théâtre poème. Et on vous parlera de ces nombreuses reprises, hein, qui reviennent. Donc, qui dit reprise dit forcément ça a vécu les planches, donc c'est signe d'un succès, hein, si on le reprend. Et on ira faire un tour du côté des tanneurs, un truc complètement allumé qui s'appelle La Estupidesse. On ira faire un tour du côté d'un drame antique revu et corrigé, Mama Medea. On ira faire un tour du côté de un événement, hein. Wim van de Caybus reprend sa première chorégraphie et on vous parlera d'un spectacle qui nous annonce une soirée ultra décadente par la compagnie marseillaise La Zouz, que Catherine a un petit bémol et ça on en discutera en fin d'émission.
Suspense.
Mais là je me retourne vers les grunchies de la bande. Hein. Alors Bleu Bleu, la comédie grunge, honneur à Catherine. Catherine, on a vu ça hier, c'était la première.
Oui, Bleu Bleu de Stéphane Arcas à l'Océan Nord. Alors une pièce qui est en effet sous-titrée comédie grunge. On y croit complètement dans les premières minutes d'ailleurs parce qu'on a droit à un monologue de Nicolas Luçon qui se lance dans une envolée lyrique sur les reflets bleutés des bouleaux dans la nuit. Mais on comprend vite qu'il n'est pas tout à fait dans son état normal, qu'il est un peu camé, même largement défoncé. Et tout ça va l'emmener vers des considérations plus pratiques parce qu'il vient de se faire charcuter à l'hôpital et il n'a pas les moyens de payer sa mutuelle. Mais tout ça dans un style de poète maudit, un peu à la Pete Doherty. En plus, il ressemble un peu à Benjamin Biolay, donc ça fait un peu bohème comme ça. Et tout ça nous emmène dans un squat dans les années 90 au milieu de jeunes étudiants des Beaux-Arts à Toulouse. Puisque tout ça est inspiré du vécu de Stéphane Arcas qui vient de là et qui, on imagine, puisque c'est de ça que parle la pièce, qui a dû financer ses études et ses projets artistiques en faisant du trafic de drogue. Alors c'est ça le pitch de cette pièce et on les voit, cette bande de squatteurs, branleurs, qui ont des grandes idées sur l'art mais finalement n'arrivent jamais à rien produire parce qu'ils sont empêtrés dans leurs histoires de dope. Tout ça avec beaucoup d'humour, moi j'ai trouvé, avec des comédiens formidables, vraiment, Marie Boss notamment, avec sa voix si particulière, qui ici est une rêveuse mélancolique qui nous raconte ses rêves étranges et qui a une relation un peu compliquée avec un des artistes qui est là. Et c'est un peu long, ça dure 2h15, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de délire défoncé, évidemment.
C'est la vie de groupe vraiment qu'on retrouve là, la vie de groupe de gens défoncés?
Oui, parce que les mecs sont tout le temps ensemble. Donc déjà dans ce squat, hein, qui a une belle scénographie un peu baroque, il y a donc cette bande de copains. Donc on devine que ça appartient à un certain Nico, qui est avec une certaine Élise. Et en fait, il y a plein de monde qui passe, ils font leur trafic de drogue. Et on voit tout le temps temps les mecs tout le temps ensemble et les filles tout le temps un peu errées dans des coins. Elles aussi, elles sont ensemble. Donc il y a vraiment cette bande de codes. Bon, c'est notre génération, donc nous, on s'y est retrouvés. Évidemment, Stéphane disait que voilà, c'est une comédie auto-centrée, mais tout ce qui est là n'est pas... il dit que c'est pas son vécu, mais il a tellement la tête de l'emploi. Il est tellement une tranche de rocker, comme ça. Tu te dis, ne me dis pas que tu n'as rien pris dans ta vie. Donc il y a ce côté-là. Et il y a surtout ce côté romantisme, parce que la pièce, elle est pas... C'est pas bruyant, ce n'est pas de la musique à fond de balle qu'on pourrait voir dans l'appart, on passe pas des disques, il n'y a pas par exemple Nirvana, même si on le cite et qu'on en parle, parce qu'à un moment donné le mouvement grunge est décrit, on rappelle un peu cette époque-là, donc on n'est pas dans cette musique, il y a juste deux, trois apparitions du chanteur de Diabologum qui était à Toulouse, hein, rock français, qui est un pote à Arcas, qui est venu de là-bas, donc ça c'est le petit bonus, mais il ne faut pas s'attendre à une pièce musicale avec du grunge tout long, donc ce n'est pas forcé, c'est vraiment un romantisme assez poétique, en plus c'est des gamins, enfin c'est des jeunes qui font les beaux-arts, et il y a toujours ce rapport, on peut tous imaginer à 20 ans, on croit qu'on a le génie, donc vous avez tous connu un mec qui avait toujours un carnet de notes sous sa main, et même au café il avait une idée géniale, il a noté, moi je me souviens à 20 ans je faisais un trip sur la... sur les surréalistes, sur Dada, sur le ready-made. D'ailleurs, le ready-made vient dans la pièce. Nous, on se faisait un trip où, oui, mec, il faut se dérégler l'esprit par la conscience appliquée. Tu vois, ce genre de lyrisme un peu... Voilà, à 40 ans, t'en rigoles, mais à 20 ans, tu y crois. Et il y a cet humour de cam qu'on essaye de vendre qui est... qui fait partie de la fable. C'est un mini-suspense, mais moi, je trouve qu'il ne le tire pas assez.
Donc, il y a aussi beaucoup sur les années 90 hein, et sur leur génération à eux, une génération à qui on a parlé de chômage dès le berceau, une génération qu'on appelle sacrifiée. Ils ont voulu mettre beaucoup de références à ces années 90, par exemple la guerre du Golfe. Donc par moments, ça paraît un petit peu forcé, mais quand même, ils se moquent beaucoup d'eux-mêmes et ça, c'est toujours agréable.
Ça se fait dans la déconnade. Il faut savoir que c'est Stéphane Arcas a écrit ce texte en 92 en sous forme de nouvelle. Et donc, c'est un premier jet comme ça. Je ne sais pas s'il avait pris quelque chose ce soir-là ou pas, mais c'est vraiment une écriture, on imagine, une première écriture comme ça, intime quand même, d'un premier jet. Et il a retravaillé ce texte au fil du temps. Donc, il l'a travaillé à un moment donné, il me disait, en scénario. Et puis après, il l'a travaillé pour un texte à six voix. Et ici, le retravail à la pièce. Donc, c'est vraiment. Il a essayé de garder le côté un peu brut et jeté d'un premier écrit, quoi, on va dire.
Mais quand même, avec un travail particulier sur la langue, avec plein d'expressions qu'on imagine toulousaines, mais ils n'insistent pas trop non plus. Et avec des bouts de verlan, enfin, on a l'impression de regarder vraiment des jeunes des années 90. Et ça, c'est, je trouve, assez subtil.
Oui. Alors, je vois que c'est pas Stéphane Arcas qui fait la scénographie, mais est-ce qu'on trouve finalement son univers visuel, puisque lui aussi est scénographe?
Lui, il a un univers dark. Hein. Donc, ici, il disait c'est le truc le moins dark qu'il a fait. Donc, il a fait une comédie. Il s'amuse lui-même. Quoi. Et bleu, ça vient d'un bar de Toulouse. Donc, c'est un truc moins dark. C'est très intéressant. C'est une dame qui a un nom très compliqué pour moi, mais qui fait des scénographies superbes.
Marie Cernovitch.
C'est pas du tout bleu, hein, d'ailleurs. On est dans un squat avec des meubles et une moquette complètement maculée de toutes sortes de choses. Des giclures de peinture sur le mur et d'ailleurs, ces éclaboussures de peinture à la fin deviennent phosphorescentes par un jeu de black light.
Une espèce de Pollock. Hein, une espèce
et ça fait du Pollock un peu rave party, c'est pas mal.
Et y a-t-il de l'espoir dans tout ça?
Oui, hein, c'est pas du tout sombre en fait, c'est plutôt comique.
Parce qu'on parle de génération sacrifiée, etc.
Mais c'est une mélancolie poétique. Enfin, quand il fait à un moment donné ses discours sur cette génération sacrifiée, il n'y a pas de pathos, quoi. C'est vraiment une espèce de cri de pas de colère non plus, mais un truc qui est franc, qui est face micro, comme ça. Et ce qui est très beau aussi dans ce collectif, hein, c'est vraiment, comme dit Catherine, un superbe jeu de chacun. Il y a Claude Schmitt qui est metteur en scène, qu'on découvre ici en jeu, qui est extraordinaire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un texte assez fragile. Bon, moi, je ne croche pas à tous les textes et tout, mais il y a à un moment donné, un des comédiens qui vient et qui fait tout un récit sur des petits sachets en plastique dans lesquels il y a de la poudre. C'est tout con, il tourne en rond sur ce sachet en plastique et la poudre dans le sachet en plastique et tout, et il en fait quelque chose de sublime, une vraie poésie. Donc vraiment, les comédiens ont cette force sur des choses très anecdotiques, ici, de la poudre et du sachet. Ils en font un moment de bravoure hein, quand ils passent sur ce moment. Et franchement, ceux qui ont vécu, et même une jeune génération, va accrocher. Nous, on a vu ça quand même avec des amis un peu plus âgés. C'est vrai que les passages sur le Koweït et sur la guerre et tout, moi, je me retournais, je les entendais faire... voilà. Mais nous, ça nous touche. Et puis, ceux qui ne connaissent pas cette période, les plus jeunes, ben voilà, la première guerre du Golfe était là. On imagine la chute
et
du
oui,
mur.
Ça existe. Enfin,
le Rédimé.
Les jeunes qui n'ont pas connu cette période-là, ça existe.
Et le passage de l'analogique au numérique.
Qui est un peu expliqué. Et surtout, le grunge, de rappeler que c'était quand même un endroit qui était sans fripe, sans marque, un peu un pied de nez contre la société de consommation. Et ça peut encore résonner aujourd'hui. Moi, j'ai eu un peu plus de réticence hier, et en décantant dans les heures suivantes, il y a quelque chose de très beau et de bien réussi dans ce spectacle, quand même un peu ovni. Hein. Le grunge, ça court pas les rues sur les scènes en Belgique et ailleurs.
Stéphane Arcas signe donc Bleu Bleu, écriture et mise en scène du côté du Théâtre Océan Nord, et c'est à voir jusqu'au 25 janvier, www.océannord.org, et pour les habitués de Radio Campus, avec Univers Musical signé Émeric de Tapol et Michel Clou.
Voilà. Et alors, on va direct au public, hein, un tout à fait autre genre. Oui, donc là, on était chez les jeunes grunchy. Là, on va chez les vieux. Hein,
chez les vieux. C'est presque dans les maisons de repos qu'on se retrouve.
Ça démarre par là. Donc, c'est le jeu des cigognes signé Philippe Blasban. Que Nicolas, tu as vu, comme on a vu tous, la parole est à toi.
Deux hommes, deux femmes, donc, que l'on retrouve sur des espèces de bancs publics, on peut dire ça, et qui vont se remémorer un petit peu leur histoire. En tout cas, on va nous confier leur histoire. On apprend que c'était deux couples, mais que tout le monde ne s'est pas aimé de la même façon, que les amours ont été croisés non plus. Et c'est une histoire de regret aussi, une histoire de bonheur vécu. Et on remarque avec les années, le regard s'est affiné. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit que finalement, plus personne n'est avec personne, mais on va tous se voir encore un petit peu pour peut-être sasser ces histoires. Mais il y a quand même un personnage qui se démarque dans ce couple, une des deux femmes, interprétée par Magali Pinglot. C'est une dame, on ne peut pas dire qu'elle est atteinte d'un handicap, mais elle vit un petit peu, elle voit tout en bleu, un petit peu, c'est la petite simplette un petit peu du groupe, et elle va avoir un rôle particulier dans le regard qu'elle va porter sur les époques qui ont été traversées et sur les histoires qui ont été également traversées. Et c'est ça, c'est cette multiplicité de voix qui vont nous être confiées, avec aussi l'autre femme interprétée par Laurence Viel, qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte, les pieds sur terre, moins dans les astres.
Beaucoup plus cruelle aussi. Hein. C'est vraiment la vieille mégère, parce qu'ils ont, mais elle est très rude. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette pièce, c'est que ça se passe en Belgique. Ici, c'est dans les polders. Mmh. Et on voit un vécu belge qui nous échappe un peu. Hein. C'est l'époque où ils n'avaient presque rien chez eux. Et alors, la dame qui est plus âgée, on sent en filigrane qu'il y avait une histoire d'inceste dans leur maison. Apparemment, elle aurait craché quand on a enterré son père. Et elle a gardé cette méchanceté. On n'imagine pas qu'un vieux reste méchant jusqu'au bout. Parce que tous ces gens se sont rencontrés très jeunes.
Oui.
Et on les suit jusque vers la fin de la vie.
Mais ils se sont tous loupés aussi. Ils ont tous passé à côté de leur amour, de leur bonheur. Finalement,
certains sont partis en Afrique aussi. On apprend ça, évidemment. Mais moi, ce que je trouvais un point fort, peut-être, c'est de ne pas avoir grimé les acteurs déjà en vieux. Puisque comme on traverse les époques avec eux, ils nous sont proposés tels quels, un petit peu comme ça, à leur âge, des quarantenaires. On retrouve donc Magali Pinglot, Laurence Viel, Benoît Verhaert également, et Didier Denet qui signe la mise en scène de ce Philippe Blasband. En décor, là, pour parler un petit peu plus de nostalgie, on voit un mur avec des vieilles photos qui sont manipulées. Bon, c'est un peu gadget parce qu'on n'a pas le temps, surtout dans la salle des voûtes du public, de pouvoir toujours bien voir ce qui se passe derrière. Mais voilà, on se laisse porter dans ce récit. Malheureusement, je trouve qu'il y a quand même une faiblesse dans la mise en scène. OK, on a ce banc public, mais ça reste quand même parfois assez lent, assez statique. Ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Il y a...
Mais c'est des vieux, hein, excuse-moi. Hein. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de fils qui sont là, mais ils ne sont pas tirés jusqu'au bout. Donc on trouve ça. On se dit, par rapport aussi à Philippe Blasban, qui a des écritures beaucoup plus abouties, moi je me suis demandé, tiens, si ça ne s'est pas écrit un peu à la va-vite, ça reste quelque chose de mignon, mais finalement, pour raconter quoi ? Il y a la petite histoire qui se mêle à la grande histoire, mais la grande histoire n'est pas là exceptionnellement, à part nous dire qu'ils sont partis en Afrique et puis il y a un peu de règlement de compte entre les potes. Mais on voit surtout une histoire d'amitié qui s'effiloche et, comme dit Catherine, des gens qui se sont finalement loupés et ça nous renvoie un miroir du temps qui passe, quoi. Mmh. Donc pour ça, c'était un, moi j'ai trouvé un peu
court, on va dire.
Un peu touchant, moi j'ai trouvé quand même touchant. Et mine de rien, Verhaert, quand il se ramène en petit vieux, quand il y a quelques petits gestes comme ça qui ramènent de petits vieux. Et le personnage de la dame âgée qui est très coriace, qui est très rude et qui était intéressant. Ce qui est curieux, c'est ce fameux jeu des cigognes, hein. Finalement, est-ce qu'on l'a compris,
ah oui,
pas compris ?
C'est vrai qu'on ne l'a pas expliqué, parce que c'est interrompu par un jeu inventé, en fait, par Magali Pinglot, hein, qui est
le
toujours un petit peu
naïf.
Dans son monde, naïf.
Mais je ne suis pas sûre qu'elle l'ait inventé, parce qu'au début, elle ne comprend pas les règles. Elle arrive, elle joue avec les autres, parce qu'en fait, il y a aussi tout un symbole autour de son personnage à elle, puisque c'est inspiré du fils de Philippe Blasban, qui est dysphasique, qui a tout un problème avec le langage, qui ne comprend pas les sous-entendus derrière les mots. Mmh. Et c'est son problème à elle aussi. Donc c'est beaucoup aussi sur le langage.
C'est un rôle compliqué, hein, de jouer ce personnage un peu à la marge et tout. Toi, Catherine, ton sentiment finalement à travers tout ça, au final ?
Moi, je trouve que ça manque de relief, ça manque de liant. Il y a des bonnes idées, il y a des beaux moments, mais au final, on a l'impression que ce n'est pas abouti.
Mm-hmm. Les fils ne sont pas tirés jusqu'au bout, mais ça se regarde, parce que finalement, on a passé une petite heure agréable et ça se regarde en douceur. Mais voilà, ce n'est pas le spectacle à fuir non plus. Hein.
Le jeu des cigognes de Philippe Blasban, mise en scène par Yos Verbiest et Didier Denet, qu'à voir au Théâtre Le Public jusqu'au 22 février, www.theatrelepublic.be.
La conspiration.
De retour dans La conspiration des planches.
En pleine grisaille bruxelloise, c'est savoureux. Retour à la conspiration. Alors Nicolas, j'en profite, tu es parti au poème hier et tu as vu la contribution à la théorie générale. C'est un titre qui est sexy ou pas sexy, comme dirait Bleu Bleu ?
À votre avis, c'est le titre de quoi ? On vous lance d'un article scientifique, d'une conférence.
La
c'est
physique.
À ça qu'on est un petit peu conviés. Et on va nous parler du boson. Rappelez-vous, quand François Englert a reçu son prix Nobel, il a dit, on lui a demandé, vous savez nous expliquer le boson simplement ? Il a dit non, pas du tout. Voilà, ça concluait le débat et ce sera la même chose ici en fait. On est convié à une conférence par un certain Grégor, un drôle de scientifique qui surgit comme ça avec son impère, un peu timide. On a l'impression qu'il sort d'un ermitage assez prolongé. Et il nous raconte qu'il est l'élève d'un maître décédé, un certain Otto Schnibel, dont il va nous expliquer sa contribution à la théorie générale. Et donc, en fait, cet homme, pendant que dans les années 60 et 70, on parlait du boson et a été découvert ce boson de manière théorique, il s'est rendu compte, mais tout ça explique ce que moi j'avais déjà expliqué avant. Ah, bon, alors, est-ce qu'on va en savoir plus sur ce boson et tout ça ? On est convié donc dans cette conférence qui est faite dans un texte très très littéraire, très lourd comme ça, avec des circonvolutions vocales assez fortes par cet homme, parce que quand il arrive, il sort un big paquet de feuilles qu'il met sur la table, on se dit « oh là !» Ça va, c'est foutu quoi. Si c'est de la physique quantique pendant une heure et demie, ça ne va pas aller du tout. Mais non, évidemment, ce n'est qu'un prétexte. Ça reste une conférence, mais qui ne va pas tourner comme lui le veut, ce fameux Grégor. Parce qu'il a un assistant, Boris, qui est dans les coulisses et qui doit normalement nous diffuser des diapositives. Évidemment, ça n'avance pas, ça n'arrive pas, ou alors elle n'arrive pas au bon moment. Et ça va énerver un petit peu notre Grégor qui va se lever et sortir un petit peu de sa timidité. Et au fur et à mesure qu'il nous raconte comment son maître a pu approfondir ce boson, ou en tout cas ce que le boson a provoqué dans sa théorie, il va s'émerveiller et un peu à la manière de l'histoire du boson qui, pour rappel, était appelée la particule de Dieu parce qu'elle nous rend, elle nous rappelle l'immensité de l'univers et notre petitesse également dans l'univers, eh bien, il va être un peu émerveillé, perdu dans cet univers et être abasourdi par ce qui l'entoure et la révélation que porte ce boson. Ça nous rappelle, c'est le vertige, voilà. Et un vertige qui nous est offert de manière très poétique par François Emmanuel dans ce texte. C'est un peu l'auteur fétiche du poème, hein, on l'a déjà vu à plusieurs reprises là-bas, et qui nous offre ici un texte à la base pas du tout théâtral, mais qui est rendu théâtral par son jeu.
Mais est-ce que nous, dans la salle, justement, parfois, on peut avoir ce sentiment de se sentir tout petit face à l'immensité du monde, tu vois, on est là seul dans notre siège, un spectacle. Est-ce que ici on arrive à prendre l'ampleur du monde qui nous dépasse?
Oui, ben par le jeu, par la mise en scène, puisqu'à un moment ces diapositives elles vont se remettre en route. On va avoir une espèce d'image d'univers profond qui tourne, puisque c'est aussi la spirale, l'univers en extension et puis qui se retend vers lui-même. Et au fur et à mesure, il y aura aussi un jeu sur les lumières. Il y a une magnifique dernière partie où il est pour se remettre un peu dans les conditions de la création de l'univers, dans le noir complet, avec juste une bougie, et ça projette des ondes comme ça sur les murs, c'est assez formidable. Et sur ce qui pouvait paraître rébarbatif, ben finalement on se laisse emporter un petit peu, même si on ne comprend pas tout, et on n'en saura pas plus sur ce boson. On sait juste que ça nous ramène à nous être tout petits dans un univers immense et infini.
Et ça a l'air assez drôle.
Ça a l'air drôle, oui, bon, c'est pas non plus ha 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 ha, mais c'est vraiment cette allusion, ce personnage aussi qui est interprété ici par Franck d'Aquin, qui est assez bien d'ailleurs, et parce qu'il n'a pas un texte facile, hein, c'est un long monologue d'une heure et demie quand même, avec des phrases très longues. Eh bien, oui, il y a des touches d'humour, évidemment, sur cette interaction aussi avec Boris, qui n'intervient pas quand il faut, et donc voilà, c'est une bonne première surprise pour ce focus sur François-Emmanuel qui est au poème 2.
Et c'est mis en scène par Julien Roy.
Julien Roy, oui, également.
Depuis un bon bout de temps. Alors moi, je pensais à ça, dans Bleu Bleu, on ressort avec un sourire, notre génération un peu, voilà, on repense. Est-ce que ici, avec l'univers et tout, on en ressort plus sombre, plus flippant, ou c'est vraiment c'est un morceau de poésie qu'on traverse?
C'est vrai qu'on peut être pris de vertige après ça, hein, en sachant qu'on est dans ce noir total. Qui sommes-nous? Sommes-nous rien? Sommes-nous quelque chose? Finalement, c'est ce qu'a défini le boson, mais on ne sait pas très bien non plus comment. Mais en tout cas, on se pose la question, finalement, on est quelque chose de plusieurs choses, de boson, puisque ce que le boson expliquait, c'était la matière et la non-matière aussi, surtout ça, l'exploration de la non-matière. Je ne vais pas vous faire une conférence de physique ici.
Poésie cérébrale au théâtre poème.
Contribution à théorie générale, premier texte, donc sur ce focus sur François-Emmanuel. Ça joue encore cette semaine. La semaine prochaine, deuxième seul en scène avec Gwen Berrou et Pascal Crochet à la mise en scène. Ça s'appelle Joyot ne chante plus. J'ai survolé le texte, ça parle d'une dame qui est un peu perdue dans son appartement avec son canari qui est mort, donc, et qui va nous parler un petit peu de tout ça, de tout ce qu'implique cette mort. Et ces deux spectacles vont s'alterner pendant 4 semaines au Poème 2, donc www.theatrepoeme.be, et c'est jusqu'au 23 février.
Alors, dans le chapitre des nombreuses reprises, hein, cette saison-ci, donc on épingle La Estupidesse qui a lieu pour l'instant au théâtre des Tanneurs et Mama Medea qui a lieu c'est le Rideau de Bruxelles qui est exporté au théâtre national, c'est quand même une première. Donc, La Estupidesse, pour faire en bref, c'est d'abord mis en scène et en branle, on va dire, par le collectif Transquinquennal. C'est vraiment l'idée d'une espèce de sitcom sur un texte totalement allumé. Donc, il y a des nombreux personnages interprétés par cette équipe de Transquinquennal qui est extraordinaire dans une scénographie, on va dire, d'intérieur, de fond intérieur, et plusieurs personnes vont s'entrechoquer, se regrouper. On va les retrouver à intervalles réguliers. C'est écrit par un Argentin avec une certaine folie. Il s'est inspiré des 7 péchés capitaux pour faire plusieurs textes, et ici c'est notamment le rapport à l'argent. Alors on suit pendant 3 heures. Moi j'y allais avec des pieds de plomb quand on m'a dit 3 heures. Ça se regarde, c'est tellement fou. Eux disent, voilà, on a poussé la connerie au plus loin possible, et on y croise des flics totalement débiles, des voisins qui font un barbecue en chemise Hawaï, des beaufs. On est dans une chambre d'hôtel avec des scientifiques qui sont là dans une espèce de complot. Et on suit ces personnages et on rentre tout doucement dans ce chaos très fou du monde. Ça se regarde vraiment, c'est très savoureux. C'est 3 heures, mais ça se regarde très facilement. Si vous aimez le sitcom ou la série un peu kitsch ou vraiment au deuxième degré, ça vaut le coup, c'est très délirant. À l'opposé, beaucoup plus punchy, Mama Medea, Nico.
Alors, Mama Medea, on retourne dans ce mythe antique de Médée et son Jason, hein, qu'elle a attendu et qui est revenu avec d'autres amours, évidemment. Ici, c'est Tom Lannoy qui s'est emparé de ce mythe pour nous offrir ce texte. Il l'a modernisé, oui, mais il a gardé quand même cette structure de drame antique avec toute cette force, cette amplitude aussi, parce que on retrouve cette histoire de Médée de toute façon avec Claire Baudson et Yannick Régnier, donc qui interprète le couple central, et on est plus dans la dureté, dans la brutalité d'une langue flamande au départ, ici traduite bien évidemment, et ça reste une histoire d'infanticide, ça reste une histoire de femmes blessées, voilà, et dans une mise en scène donc par Christophe Sermet qui utilisait la profondeur au Krikeleur, qui j'imagine le refera aussi ici au Théâtre National, et dans la noirceur aussi, sur le clair-obscur, enfin ça...
Très, très spacieux, on a vraiment l'impression d'assister à une scène de ménage, tu vois. Médée, elle vient d'en haut, l'autre, il vient d'en bas, ils clashent, et autour, il y a tout ce monde, et il y a des moments donnés qui sont très, très drôles aussi, ça aussi, c'est réussi. Et il y a vraiment une énergie brute qui est là, du début à la fin, et on traverse, on est dans la modernité, et on est dans la préservation du drame antique, et c'est quelque chose de très, très, très bien foutu, c'est très bien orchestré par Christophe Sermet, c'est évidemment repris, vu que c'était un tube, hein, on peut le dire, ça, et la Estupidez, c'était des tubes, c'est à voir.
C'est à voir, donc... jusqu'au 25 janvier au Théâtre National, www.theatrenational.be. Et La Estupidez, c'est quand même à voir encore jusqu'au 18 janvier à 20h du côté du Théâtre Les Tanneurs, www.lestanneurs.be.
Voilà, un petit mot pour dire qu'au KVS commence l'événement, hein, la reprise de la première chorégraphie de Wim van de Caybus. Les chorégraphes flamands reprennent ainsi leur répertoire. On a eu Fabre l'année dernière. C'est pour dire, c'est pour voir aussi le travail ultra physique de ce chorégraphe qui, à la base, était danseur, notamment chez Fabre, et c'est un travail ultra physique sur les corps, et une des scènes les plus connues qu'on peut voir sur YouTube et tout, c'est qu'à un moment donné, ils prennent des briques, donc c'est sur l'accident qui peut survenir, donc ils lancent la brique, et à un moment donné, les danseurs passent à travers, et tu la prends ou tu ne la prends pas. Généralement, ils ne la prennent pas ici, mais ça reste, on est sur le qui-vive. Et le titre, c'est « What the body does not remember », donc sur le corps qui retient ses accidents ou non, c'est à voir à partir de jeudi, et avoir quelques temps. Donc, il démarre une tournée, ça a démarré ailleurs, ce sera ici, puis ce sera à Charleroi. C'est plutôt un événement de voir la première chorégraphie de Wim van de Caybus.
Au KVS jusqu'au 25 janvier, www.kvs.be.
Voilà, alors il nous reste une petite minute pour vous parler d'un collectif marseillais qui s'appelle La Zouze et qui fait des soirées interdisciplinaires. C'est pas de la performance, c'est pas du spectacle, c'est pas de la chorégraphie, mais c'est une espèce de art clubbing, donc une soirée où on travaille, où on est mélangé avec les artistes, comme une soirée. Ils ont annoncé un déluge musical, donc on est vraiment dans un concept très étonnant. Catherine, toi, tu l'as vu à tourner. On annonce évidemment de la décadence totale. Et Catherine, toi, c'est ton bémol.
C'était pas tout à fait décadent comme moi je l'ai vu à tourner, mais le collectif précise que c'est un travail en perpétuelle évolution qui s'adapte aux espaces où ça se passe. Et donc là, au Hall, ce sera sans doute très différent, surtout que ça va se faire avec les artistes de cirque de l'ESAC et les étudiants de la Cambre qui vont notamment créer les costumes. Alors voilà, il faudra mettre plus de moyens que ce que moi j'ai vu à tourner, il faudra plus investir l'espace. Pour moi, ça, ce que j'ai vu à tourner, ça tombait un peu à plat. C'était, alors oui, il y avait des beaux costumes, oui, c'était un petit peu cosmico, drag queen, mais c'était pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé pour moi, mais tout peut arriver encore au Hall.
Et est-ce qu'on est dans une soirée ou dans un spectacle ?
On est dans les deux. C'est vrai que c'est déambulatoire, les gens viennent vers vous, vous interpellent, et il y a de la musique, oui, à la fin. Il paraît qu'ils finissent tous à poil.
Anonyme Fever par La Zouze, donc c'est 17 et 18 janvier au Hall de Scarbeck, www.hall.be.
Alors sur ces bonnes notes de tous à poil, on vous quitte comme ça, on a commencé par le grunge, Come As You Are, Never Mind. À la semaine prochaine, bonne planche à tous, sortez de chez vous, ciao ciao.
Toutes les infos sur les spectacles parlés dans cette émission, c'est sur www.radiocampus.be et le podcast à partir de vendredi sur demandezleprogramme.be. Belle semaine à vous. We'll be right back.
la constelación.